Et oui, 100% parler tout l'été, 100% parler le midi avec l'émission On en jase, Jeff Fortin avec Pascal CV pour vous accompagner. Ce sera le retour estival de 14h à 18h. Trio de filles cette semaine. Audrey Pinchon, Antonine Iaccarini et également Véronique Bergeron. Le matin, c'est moi, Yannick Marceau et Max Larouche. Mais ce sera Pascal CV avec nous vendredi matin. Tout simplement. Pour nous suivre, la meilleure façon de nous écouter sur la route, BLVD 101, notre application disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Vous pouvez également nous écouter via le BLVD.fm, c'est notre web radio. Les meilleurs moments de notre émission s'y retrouvent par la suite. Pascal, il y a des tragédies qui marquent. Et la tragédie de Lac-Mégantic, c'est très frappant, c'est très marquant parce qu'une petite communauté qui a été complètement anéantie par cette tragédie ferroviaire. Puis quand il y a des tragédies comme ça, on se souvient toujours où on était. Et moi, je me souviens, j'étais en tournoi de DKK à Drummondville. On se lève le matin, je vois quand même assez de bonne heure vers 9h, 9h30. Puis dans ce temps-là, c'est les journaux papier. Fait que je m'en vais au petit dépanneur de l'hôtel pour prendre mon journal papier pour lire mon actualité. La une, la grosse photo, la boule de feu. Et là, il y avait des équipes dans le tournoi qui venaient du lac Mégantic. Donc là, appel, y a-tu quelqu'un qui est touché dans ma famille? Tout ça, c'était vraiment un moment très terrifiant qu'on a vécu éloigné à Drummondville, mais on sentait toute la tristesse, toute l'angoisse là, que la communauté entière avait là. Donc, vraiment, là, c'était très difficile. Toi, t'étais où durant cette tragédie-là, t'en souviens-tu?
Oui, moi, j'étais dans le moment de ma vie où j'étais aux études, là, en arrêt technologie des médias, mais je revenais à Québec l'été. Mm-hmm. Puis tu sais que mon père est en incendie aussi, fait qu'on appelait les équipes pour venir en renfort d'un peu partout.
Oui, oui.
Fait que mon père, il m'écrit, puis je travaillais dans un resto ce matin-là, puis il me dit « Hey, veux-tu qu'on monte? » À Lac-Mégantic, moi, lui, il voulait monter. Puis il m'a demandé si je voulais monter pour prêter main forte ou quoi que ce soit. Fait qu'on était dans cette... J'ai pas pu annuler mes shifts à l'emploi. Mm-hmm. Mais 8 mois plus tard, la vie a fait que je me suis ramassée à être sur le terrain quand il y avait absolument rien de fait encore. Juste un escalier en fer, je me rappellerai toujours de cette vision-là, en fer forgé, debout, seul, dans un cratère de poussière puis de plus rien qui existe en termes de centre-ville. Puis j'ai travaillé là pendant 3 mois. J'avais plein de mandats différents, mais j'animais l'émission du matin.
Ouais. Très, très, très difficile comme tragédie. Là, 13 ans plus tard, bon, OK, le Canadien national va avoir réglé ça, nos différents paliers de gouvernement. Puis le centre-ville de Lac-Mégantic va être sécurisé. Pour en parler avec nous, on a Robert Bellefleur, qui est créateur de la Coalition des citoyens et organisme engagé pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. Monsieur Bellefleur, merci pour votre disponibilité ce midi.
Et bonjour, Monsieur Fortin et Mme Cévé.
Monsieur Bellefleur, je le disais d'entrée de jeu, normalement, après 13 ans, la situation devrait être réglée, mais ce que je comprends, c'est que rien n'a été fait au Lac-Mégantic et même, il y a des trains encore plus imposants qui passent directement au centre-ville.
Effectivement, c'est malheureux de le dire. Ça fait 13 ans qu'on attend la solution qui serait le passage d'une voie de contournement à l'extérieur de la municipalité de Lac-Mégantic. Malheureusement, le Transport Canada, le Canadien Pacifique, l'Office des Transports font études sur études et on n'en finit plus. Les trains sont deux fois actuellement qui passent à Lac-Mégantic 2 à 3 fois par jour, sont 2 fois plus longs. 2 fois plus lourd et transporte 2 fois plus de matière dangereuse, plus dangereuse que le pétrole de schiste parce que c'est du gaz propane, de l'acide sulfurique, l'essence automobile, du chlorure de sodium. Alors, écoutez, si ça pétait, ça serait. Il y aurait un rayon de dévastation beaucoup plus grand.
Avez-vous l'impression qu'on essaie de gagner du temps? Comment ça, est-ce que c'est si long?
Ben, c'est la léthargie de nos gouvernements. Avec toutes les mesures qu'ils veulent. Actuellement, le débat est autour de l'accès à l'eau potable. Ça, on a quand même, les firmes nous ont garanti que l'eau potable, c'est un problème qui était résolvable. On a juste à creuser. C'est quelqu'un manque d'eau, on creuse puis creuse, un peu de cartésien. Il y a les milieux humides, c'est sûr que c'est la nature qu'il faut protéger, mais à un moment donné, il faut faire un choix judicieux entre le milieu humide et la sécurité des gens.
Et là, bien, on privilégie à l'heure actuelle les milieux humides, c'est ce que je comprends?
Bien, c'est ce qui retarde actuellement le début de la construction de la voie de contournement. C'est sûr qu'il y a des opposants, il y a des gens qui sont expropriés, ils ne sont pas contents, puis je les comprends. C'est des citoyens comme moi, puis ils perdent leur petit paradis. Ils font un très grand sacrifice en concédant une partie de leur terrain. Mais le pire là-dedans, c'est que c'est qu'on continue à transporter des matières dangereuses au cœur du centre-ville de Lac-Mégantic. Et hier, quand j'ai appris, moi, la tragédie, la catastrophe qui est arrivée à Repentigny, là, écoutez, là, j'ai eu des sueurs froides parce que les trains circulaient dans une zone résidentielle, d'après moi, à plus de 40 000 à l'heure, là, avec des wagons peut-être vides là, de matières dangereuses, mais je suis pas certain qu'ils passent pas dans l'autre sens, des fois, avec des produits dangereux, là.
Il y a quelque chose de super émotif, puis on s'entend que c'est la priorité 1, c'est une tragédie, ça a été décimé, il n'y a pas personne qui ne connaissait pas au moins une personne décédée à Lac-Mégantic. Il y a des gens qui sont encore traumatisés de ça, puis il faut mettre les mots qui importent là-dessus. Oui, quand il y a eu les commémorations, un an plus tard, il y a des gens qui voulaient plus aucun journaliste, plus personne sur le terrain, parce qu'ils étaient tannés d'en parler, puis d'être tout le temps confrontés à ça, puis d'autres qui avaient besoin de colmater ce défi émotionnel-là. À ce jour, on en est où? Est-ce que c'est pris assez au sérieux?
Écoutez, j'arrive de la commémoration devant l'église, et 47, un coup de cloche avec les prières, et puis les gens qui étaient rassemblés autour du monument sont inscrits les noms des 47 personnes, dont je connaissais personnellement 25. Et je peux vous dire que les gens qui étaient là étaient encore épris pas mal d'émotions, puis avec ce qui est arrivé hier à Repentigny, là, ça s'est frappé, comme on dit, là, ça a remis les gens pas mal dans le bain, puis de toute cette souffrance-là, puis de cette inertie. Merci gouvernemental, merci des compagnies qui préfèrent augmenter le profit au déprimant de la sécurité des populations. C'est inacceptable que des trains passent à 40 000 à l'heure des matières dangereuses dans des zones résidentielles comme à Mégantic, comme à Repentigny hier, et puis à East Palestine aux États-Unis, en Ohio, en 2023, un wagon de chlorure de vinyle qui a contaminé complètement tout le village. Regardez, pourquoi on accepte encore socialement que des compagnies, sous le prétexte qu'ils sont la chaîne d'approvisionnement de l'Amérique du Nord, risquent la vie des concitoyens?
Ouais. Avez-vous rencontré des gens du gouvernement fédéral dernièrement, justement, pour tenter d'avoir des réponses à cette inertie-là?
Au fédéral, si on regarde Transport Canada, ça fait 6 ou 7 ministres qui passent avec les différentes équipes. Et on a l'impression qu'ils apprennent au fur et à mesure leur travail. En tout cas, on doit les aider peut-être un peu plus, là. Mais ce qui est étonnant aussi par rapport à la voie de contournement, c'est l'attitude du Canadien Pacifique, CPKC. Mm-hmm. C'est qu'ils ont accepté de travailler sur le projet de voie de contournement, mais sans y mettre un sou à part leur expertise au niveau de l'ingénierie et de la construction. Et ils n'assument aucune responsabilité advenant que des dégâts environnementaux dans le futur. Puis ils ne veulent surtout pas financer non plus les mesures d'atténuation supplémentaires exigées par l'environnement et les différents ministères. Eux, ils disent, ben nous, on a déjà notre voie ferrée, ça va bien, là, puis ça passe, ça ne coûte pas cher. Si vous voulez qu'on traverse l'autre côté, ben regardez, construisez-vous une belle voie ferrée, là, flambant en œuvre, là, on va pouvoir rouler à 40 000 à l'heure, là, puis on va la prendre.
Je vous entends, puis je trouve ça un peu aberrant. En même temps, je me dis, bon, mais si on a la possibilité d'avoir cette attitude-là, c'est que sur papier, il y a un flou et ou un trou. Est-ce qu'il y en a un?
Bien, on sait très bien que les compagnies ferroviaires sont carrément au-dessus des gouvernements. Ils tiennent les gouvernements en otage parce que s'ils cessaient demain matin de transporter les produits manufacturiers, les produits nécessaires aux cultivateurs pour leur récolte, les engrais, les pesticides, les fongicides, les produits pour les papetières, bien, l'économie arrêterait. Mm-hmm. Alors, ils sont pris un peu en otage, les gouvernements, face à ces grosses compagnies-là, qui disent non, regardez, nous autres, là, c'est eux qui mènent le trafic. Transport Canada, là, avec ses règlements, là, c'est même l'industrie ferroviaire, l'Association des chemins de fer du Canada, qui dicte à Transport Canada quels sont les règlements à mettre à jour ou à appliquer ou à modifier.
Oui, parce qu'à la suite de la tragédie, il y a eu des recommandations de fait. Et là, est-ce que ces recommandations-là sont suivies? T'sais, on comprend qu'il n'y a pas la voie de contournement, mais est-ce qu'on circule avec moins de produits dangereux? Est-ce qu'on circule avec une vitesse moindre ou c'est du pareil au même comme il y a 13 ans?
Mais écoutez, c'est sûr qu'avec le ministre Garneau, on a vu la réglementation pour les fameux des systèmes plus solides, des DOT 117. Mais les derniers déraillements qu'il y a eu aux États-Unis et dans l'Ouest canadien avec des DOT 117, là, les fameux R, là, mm-hmm. et À 40 000 à l'heure, il déchirait aussi facilement, là. Parce que à 40 000 à l'heure, ça verse, ça frappe une infrastructure en béton ou un aiguillage en fer. Le métal, ça ne dépasse pas le 3/8 de pouce, là.
Si on n'est pas capable de régler un cas comme Lac Mégantic, qui est connu de façon internationale sur la tragédie humaine que ça a créé, tu sais, je me demande, est-ce qu'on a les mains liées puis ça se réglera jamais?
Écoutez, il y aurait des pistes quand même intéressantes. Premièrement, Pantini et puis ailleurs, faut réduire la vitesse des trains dans les zones habitées, les zones fortement occupées par soit des quartiers résidentiels ou des agglomérations, des villages. Il faudrait qu'ils passent à une vitesse, moi je jugerais à peu près 25 000 à l'heure. À 25 000 à l'heure, ça performe beaucoup moins les systèmes lorsqu'il y a des déraillements. Pour ce faire, écoutez, au CN, un des principaux actionnaires, c'est la Caisse de dépôt du Québec, et c'est aussi la Banque royale du Canada. Pourquoi ces actionnaires-là ne disent pas à leur PDG, écoutez, on voudrait vous protéger nos clients.
Ouais, d'autant plus la Caisse de placement de Québec, la Caisse de placement de dépôt du Québec. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que le gouvernement que vous rencontrez, la CAQ ou peut-être les prochains gouvernements, parce qu'on s'en va en campagne électorale, disent qu'ils vont faire pression ou eux aussi de leur côté, c'est l'inertie?
Écoutez, il y a une réunion des actionnaires qui est annuelle. Il y a une présentation des rapports annuels. Puis les PDG se tire la gravate pour dire aux gens, j'ai augmenté encore de 15% vos profits cette année, de vos actions. S'il ne le fait pas, souvent les actionnaires lui montrent la porte pour en prendre un plus agressif. Mais par contre, ces actionnaires-là ont quand même une responsabilité sociale aussi. Là. Pas juste les bénéfices là, de profits additionnels. Là. Je pense qu'il y a une piste à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être, à un moment donné, faire pression sur les principaux groupes d'actionnaires de ces compagnies-là pour qu'au moins la sécurité soit quand même là un critère important en lien aussi avec la moins grosse prise de profit.
Non, je suis très, 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 très d'accord avec vous, M. Bellefleur. Merci beaucoup pour votre participation. Robert Bellefleur est créateur de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. On vous remercie pour votre participation, M. Bellefleur.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir.
Pas facile.
Robert Bellefleur. Ça n'a pas de sens comme inertie, là. Ça fait 13 ans. T'as, on en parle, c'est une tragédie marquante où on se souvient tous où on était, qu'est-ce qu'on faisait. C'est une communauté entière qui a été endeuillée encore aujourd'hui. M. Bellefleur nous l'a bien mentionné. Les blessures sont encore vives par rapport à cet accident-là. Puis là, ben, ces citoyens-là qui ont vécu ça, ils se lèvent à chaque matin puis ils entendent le train passer avec des produits pétroliers puis ils disent « Hey, sais-tu quoi? Ça pourrait arriver à nouveau. »
C'est des gens qui ont été très patients aussi. C'est des gens
ben
qui
oui.
ont... moi, j'étais là, mettons, 8 mois après.
Ouais, ouais.
Juste pour s'acheter une paire de chaussures, il fallait qu'ils montent à Sherbrooke, qui était à 2h-3h de Lac-Mégantic. On parle de s'acheter une paire de chaussures parce qu'il n'y avait plus rien.
Ouais.
Ils ont reconstruit un petit peu plus loin. Ils ont commencé à reconstruire un centre-ville. C'était tellement beau, le centre-ville de Lac-Mégantic. Maintenant, c'est moderne. Là. Beaucoup plus froid. Là. C'est différent. T'sais, au moins, les gens peuvent vivre leur vie dans
le centre-ville. C'est moins antique. Mais... là, c'est moins patrimonial.
Puis ils ont perdu beaucoup, mais ils ont été patients. Par contre, sur cette façon d'agir-là, puis sur ce problème-là, ce nœud-là, il plie pas, puis on comprend pourquoi. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il y a un bon grand manque de respect, peut-être, dans la façon
de faire. Ne serait-ce que si on ne construit pas la voie de contournement qui coûte des centaines de millions de dollars, voire milliards de dollars, bien, au moins qu'on permette, qu'on réduise la vitesse des trains pour augmenter le sentiment de sécurité des citoyens, puis pour pas qu'une autre tragédie arrive. Parce qu'hier à Repentigny, si les wagons qui sont censés transporter du pétrole n'ont pas fait le vide avant, c'est une boule de feu là aussi, là, plein quartier résidentiel. Là.
Christian, notre auditeur, dit que c'est pas tant difficile à comprendre. Quand on lit entre les lignes, on se dit que malheureusement, ils veulent probablement pas créer des précédents puis d'être obligés de faire ça pour chaque ville à risque. C'est un fait, mais après, la sécurité, c'est qui l'endosse? Comment est-ce qu'on va gérer la suite des choses? Ça peut toujours être mieux.
Ça devrait primer.
On n'aurait pas privatisé le CN, on aurait une oreille à nos demandes. C'est vrai ça aussi, Mathieu, c'est un excellent point.
Excellent point, oui. D'ailleurs, le CN qui est un des grands responsables aussi du laxisme sur le pont de Québec, là, rappelons-le, là, ici dans la région de Québec. Donc, disons que c'est pas une compagnie qui est très ouverte. Et comme M. Bellefleur nous le disait, là, malheureusement, les gouvernements sont à la solde là, des compagnies ferroviaires. On va parler dans quelques minutes avec François Larochelle, qui est ex-diplomate du Canada au Liban. On va revenir sur le 250e anniversaire des États-Unis et également sur ses funérailles qui s'étalent sur 3 jours de Ali Khamenei, qui est l'ancien dictateur en Iran, surtout de l'absence de son fils. Mais avant, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui, important de savoir que c'est la grève générale illimitée des ingénieurs du gouvernement du Québec qui est entrée en vigueur. Donc, moins de pression qui était déjà en cours depuis plusieurs semaines, notamment les jeudis, les soirs, les nuits, les fins de semaine. Mais là, on est en grève générale illimitée. C'est une convention collective des ingénieurs du gouvernement qui est échue depuis mars 2023 au Québec. Le troisième lien est de retour dans l'actualité et fait commenter Bernard Drainville qui se dit un peu tanné des experts. Pourquoi? Bien, parce que certains experts, dont entre autres le spécialiste en planification des transports et le président de Gris Orange Consultant, Pierre Barriot, a été cité par Radio-Canada dans les dernières heures et a lancé que c'était certain que le gouvernement du Québec va devoir financer la majorité de l'infrastructure et que le projet va coûter au bas mot 10 milliards uniquement pour la construction, mais on va peut-être se rendre à 12 ou 14 milliards. Donc, pour lui, c'est un tarif qu'il faudrait charger en vue d'obtenir une rentabilité complète. Puis Bernard Drainville a dit « Moi, je suis un peu tanné de tous ces experts qui sont jamais pour le projet. » Dans le dossier du troisième lien, vous le savez, le ministre de l'Économie et député de Lévis, il a milité longtemps et milite toujours en faveur de ce troisième lien à l'est de Québec et de Lévis.
Je le comprends honnêtement. Moi aussi, je suis tanné. Je vais être bien honnête. Là. Je suis tanné de ces articles-là et de ces reportages-là avec des experts qui disent « Non, faut pas le faire. » On élit des gouvernements pour qu'ils prennent des décisions. Puis dans ce cas-ci, le gouvernement de la CAQ, après maintes et maintes reculs, là, on fait pas tant confiance que ça. Là. Mais là, on a pris la décision d'aller de l'avant. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter là, de toujours voir le pire puis se lancer dans le projet. J'ai dit la même chose pour le tramway. Là, t'sais, là, à un moment donné, on a pris une décision. Bruno Marchand a été élu. La CAQ a décidé qu'elle allait dans le tramway. Ben go, réalisons-le. Sinon, dans 20 ans, Pascal, on va encore dire à Radio de Québec « Ouais, le tramway, c'est pas un bon projet. Ouais, le troisième lien va coûter trop cher. » Puis là, il va être rendu à 38 milliards de dollars. On sera pas plus gagnant.
Mise en demeure envoyée par le CHU de Québec à qui? À l'ancien, au fils de l'ancien journaliste Jacques Tisdale. Donc, c'est sorti. Lui pense qu'on veut le faire taire et il ne se laissera pas intimider. Ce sont ses paroles. Donc, vous le savez que ça fait quelques années maintenant que le fils de l'ancien journaliste, qui est mort dans des circonstances troubles au CHU de Québec, essaie par ses publications sur les réseaux sociaux ou encore ses commentaires dans l'actualité ou dans les émissions d'actualité de parler de ce décès-là de son père qui, pour lui, est tragique et qui est complètement irrationnel. La manière dont on a géré, en fait, la maladie de son père. Rappelons que Jacques Tisdale est décédé en 2024 des suites d'un cancer du poumon diagnostiqué tardivement à l'âge de 74 ans. Puis depuis, bien, sa famille tente de faire la lumière sur la manière dont il a été pris en charge par le système.
Il va être avec nous, justement, aux alentours de 13h30.
Sommet de l'OTAN, il y a des sous-marins et la Banque de la Défense dans la mire de Mark Carney. Ce temps-ci, dans l'actualité, quand on regarde chacun des médias, il y a toujours, toujours une nouvelle sur notre défense ou sur l'armée canadienne. C'est quelque chose d'hyper important, on dirait, au fédéral ces jours-ci et même au provincial, puisqu'on a bien des militaires en ce moment qui sont du côté de l'Europe, là, même Lettonie. Donc, en route vers le sommet de l'OTAN, c'est une priorité du premier ministre Mark Carney. Il va mettre fin aujourd'hui au suspense qui entoure le choix du constructeur pour sa nouvelle flotte de sous-marins. Ce seraient les Allemands qui seraient dans cette mire-là. Donc, l'Allemagne qui construirait les 12 futurs sous-marins canadiens, c'est le gagnant du plus important contrat militaire de l'histoire du pays qui est annoncé aujourd'hui. Il y a également une attaque au palais de justice de Longueuil qui a marqué beaucoup de gens. L'accusé est reconnu coupable malgré ses troubles mentaux. C'est la dernière des informations qu'on a reçues là-dedans. C'est un interprète judiciaire qui avait été poignardé, je vous rappelle, dans un cubicule par un inconnu le 9 janvier 2024. Et ce qu'on a aussi comme information, c'est parce qu'il y en avait contre le système, hein, qui l'avait emmerdé. Et là, il est reconnu coupable pour cette attaque gratuite. Et il y a une action collective qui va intéresser bien des gens. Je me ramène en pandémie quand plusieurs vols ont été annulés pendant cette crise sanitaire. Mais maintenant, vous pourriez toucher 500 $ sans même le demander. C'est 8 compagnies aériennes et voyagistes qui doivent maintenant avertir leurs clients qui pourraient toucher un remboursement intégral. Plus de 500 $ en dommages pour un vol ou un forfait qui a été annulé pendant la pandémie. Et c'est autorisé par la Cour d'appel du Québec. Ça vise Air Canada, Air Transat, WestJet, Sunwing et leur filiale Voyage.
Donc, à suivre pour cette action collective. Et si vous voulez en bénéficier, bien, allez-y, foncez! Cet argent-là vous appartient. Pascal, en fin de semaine, Donald Trump nous a dit « Je combats les communistes ». Est-ce qu'il y a tant de communistes que ça aux États-Unis? Est-ce qu'on en fait tout un plat parce qu'il y a un politicien de gauche à New York, Zoran Mandani, qui a pris les rênes de la ville en tant que maire? Pour en parler avec nous, on a François Larochelle, ex-diplomate du Canada au Liban. Monsieur Larochelle, merci pour votre présence à l'émission L'Enjase.
Bonjour.
Monsieur Larochelle, est-ce que justement on a trop de communisme aux États-Unis? Est-ce que Donald Trump a raison?
Ben.